وكان الله Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est à la fois actuel, sensible et fondamental. Communage, amitié, fiançailles et mariage. Comment et quel statut à l'islam? À une époque où les relations sociales évoluent rapidement, où les influences extérieures sont nombreuses, il devient essentiel de revenir au repère authentique de notre relation entre hommes et femmes. Cette conférence nous permettra, Inch'Allah, de mieux comprendre les limites fixées par l'islam. Elle nous aidera aussi à construire les relations saines, respectueuses et bénies par Allah. Pour nous éclairer sur cette question importante, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui notre conférencier, Malam Abdou Malik.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال أيها الإخوة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Et après avoir établi nos aïeux Hawa et Adam sur terre, après avoir goûté les délices du paradis, car ce couple merveilleux duquel nous découlons tous, ils ont par rapport au paradis notre destinée ultime avec un dessein. Eux, ils ont vécu dans ce paradis. Nous, nous avons la connaissance que ce paradis existe. Al-ilmul yaqin. Eux, ils ont eu al-ilmul yaqin, al-haqqul yaqin et al-aynul yaqin. Ces trois dimensions du paradis qui n'ont rien à justifier par rapport à n'importe quel contexte de la science ou par rapport à n'importe quelle idéologie. Que si notre présence sur terre étant dévouée une reconnaissance à notre Seigneur en lui vouant un culte exclusif, c'est pour répondre à ce dessein ultime. Nous acceptons la thèse religieuse selon laquelle nous venons tous de Adam et Hawa, alayhim salam, et que eux, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala au ciel. Ils ont vécu un moment dans le paradis et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait établir avec un engagement solennel sur terre. Nous nous voyons certaines théories fausses, comme celle de Darwin, qui fait en sorte que l'être humain qui disent qu'il provient du singe et qu'avec la théorie du Big Bang, que la vie a commencé sur terre et que les siècles de lumière, ce ne sont que les prophètes qui, après un certain nombre d'évolutions, Homo sapiens sapiens est apparu à 250 000 ans et que c'est à partir de lui et nous avons connu certaines transformations jusqu'à atteindre le niveau de civilisation avancée, où les philosophes nous ont fait sortir toutes sortes de théories, à telle enseigne où nous nous retrouvons aujourd'hui avec toutes les universités américaines et européennes, y compris Abdou Moumouni, où il n'y a aucun institut qui enseigne les sciences religieuses. Donc nous détenons tous des inscriptions gréco-païennes. La thèse religieuse dit, Allah subhanahu wa ta'ala ayant, en établissant ces deux couples, Allah habitu minha jami'a. Ô toi, Adam et Hawa, établissez-vous tous deux sur terre. Fa imma ya'tinakum minni huda. Allah subhanahu wa ta'ala leur fait prendre un engagement solennel à Hawa et Adam. Il leur dit, à chaque fois que je vous ferai parvenir une guidée de ma part, Faman tabi ahudaya, tout celui qui obéit, qui s'y accroche à cette guidée, dont Allah subhanahu wa ta'ala fera succéder. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il ne se répond plus de peur, ni affligé au moment solennel où vous serez en contact avec Malek al-Maut. Aussi bien que nous nous y accrochons à la vie sur terre, nous nous préparons solennellement, inéluctablement, je dis individuellement, sans aucun doute, à disparaître tôt ou tard. Et ça, sans question d'âge. Et personne, nul ne connaît quand, où et comment il va rendre l'âme. C'est une constante qui n'est connue qu'exclusivement que par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il avait évoqué dans le chapitre numéro 30, verset numéro 33. Alors, si nous nous y accrochons à cette thèse religieuse, que nous venons du ciel et que nous tous nous sommes les fils d'Adam, Adam est le père de l'humanité. Et c'est de lui que tout découle. La Aqida nous enseigne que ce n'est pas la femme qui est la mère de l'humanité, comme on a l'habitude de le dire. Mais c'est Adam qui est le père de l'humanité. Dalil, qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, dans le verset numéro 1, chapitre 4, Nisa, Ya ayyuhan nas, s'adressant à toute l'humanité, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Craignez votre Seigneur, redoutez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Donc ce seul être, Adam, le premier prototype dont Dieu lui-même lui avait créé, qui n'a pas suivi le processus étant sorti de qui que ce soit, alors c'est lui le père de l'humanité. كلكم من آدم وآدم من تراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم a pu ce verset pour nous dire que nous tous nous sortons d'Adam et Adam alayhi salam vient de la terre. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui avait créé ce premier prototype qui est d'une taille assez grande. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de 60 coudées. Les deux coudées font 1 mètre, ça fait à peu près 30 mètres de longueur, 7 mètres de largeur. Il avait ses 32 dents, il connaissait tout. Wa allama Adam al-asma'a kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait enseigner presque tout, le nom de tout. Il y a aujourd'hui 7600 langues. L'ADN de Adam alayhi salam avait cela. 7600 dialectes sur les 8 milliards d'individus aujourd'hui de quels nous découlons tous. On peut parler d'ethnie. Alhamdulillah. C'est pour ça que le verset numéro 12 nous interpelle encore après ce premier verset. Qu'il nous dit, Ya ayyuhan nas, s'adressant à toute l'humanité, y compris les scientifiques, les mécréants, les hypocrites, les juifs et les chrétiens et les croyants, Ya ayyuhan nas, inna khalaqanakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi ataqakum, inna Allah alimul khabir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, chapitre 49, Hujurat, verset numéro 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans ce verset, il nous dit aux humains, vous découlez tous d'un mâle et d'une femelle. Et de ces deux, nous vous avons réparti en nations. À l'intérieur de ces nations, nous avons réparti en ethnies pour que vous vous entreconnaissiez. L'objectif ultime, qui est de cette diversité linguistique, c'est pour que nous nous entreconnaissions. Mais le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui le prend le plus, c'est ça, c'est de l'apanage exclusif de notre Seigneur. Alors nous acceptons d'être des musulmans. Nous avons une seule matrice et nous inscrivons cette conférence dans la thèse religieuse à laquelle les trois religions monothéistes, toutes trois, le judaïsme, le christianisme et l'islam, acceptent cette théorie, cette thèse que Adam, la vie a commencé sur terre, au ciel, et que Hawa et Adam ont vécu dans le paradis et Allah SWT les a fait enjoindre pour venir sur terre. Et plus de quatre passages du verset numéro 189, chapitre 7 à l'A'raf, nous dit encore, nous fixe les limites et les objectifs assignés à cela. Il dit, craignez votre Seigneur qui vous a fait créer à partir d'un seul être. De ce seul être, il créa sa compagne, Hawa, avec un seul ultime objectif, pour qu'il retrouve la tranquillité auprès d'elle. Un autre passage, verset numéro 6, chapitre 39, Zumar le groupe. Allah subhanahu wa ta'ala revient avec cette même parole et dit, c'est lui votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Et de ce seul être, il créa sa compagne pour trouver toujours repos auprès d'elle. Et le verset numéro 31, chapitre 30, Rum. Allah subhanahu wa ta'ala, verset numéro 21, il dit, wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la'ayati liqawmin. Yatafakkarun, à vous qui réfléchissez notre discience. Ces parties que je viens de citer du Saint-Coran, c'est pour justifier que Adam est le père de l'humanité. Prenez ce référence, justifiez devant n'importe quel scientifique, devant n'importe quel philosophe, pour quand vous dites Adam est le père de l'humanité et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir Adam, Hawa de Adam, d'ailleurs c'est la création la plus miraculeuse avant celle de Isa alayhi salam, qui devrait sortir du ventre d'une mère sans père, avec une grossesse qui n'a vécu que relativement quelques heures. Le temps juste que Maryam a.s. s'est dégagée, Jibril a.s. est venu, il a insufflé et la grossesse est là. C'est le temps d'accoucher seulement qu'elle a pris, pas 9 mois. Parce que avant d'aller à l'aider de Kouatatara. Donc les quatre principes sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de créer l'être humain, il a créé Adam alayhi salam lui-même sans père ni mère, il a créé sa compagne qui est Hawa alayhi salam avec un objectif ultime de trouver repos auprès d'elle, et il a assigné entre ces deux entités, homme et femme, comme il a dit dans le verset numéro 21, chapitre 30, Rum, « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. » Et parmi ces signes merveilleux, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir de vous pour vous des épouses pour que vous trouviez la tranquillité, pour que vous vivez en paix auprès d'elle. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse infinie, il a assigné cette attraction, cet amour, cette bonté qui devrait exister entre deux êtres de sexe opposé. Warahma est cette miséricorde qui devrait vous accompagner même au cas où tout est terminé, avec le verset de la ménopause, le verset numéro 60, chapitre 24, où la femme peut atteindre un certain niveau où c'est terminé. Elle n'a plus besoin de miroir. Je l'appelle le verset de la marinière. On regrette le matin qui ça. Donc le verset numéro 60, chapitre 24, nous, il dit pour celles à qui Allah qui n'espère plus le mariage, donc les règles sont taillées. Il n'y a plus rien. Allah subhanahu wa ta'ala les a recommandés à elles-mêmes de pouvoir s'habiller décemment, de ne pas faire étalage ni exhiber leur atout. Alors, même à celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment solennel, et que quand l'homme va atteindre l'âge de la sénescence, la sénilité qu'il a en lui, 75 ans révolus où il n'est plus productif, il s'est courbé, tout ce qu'il faisait dans le temps, en 5 minutes maintenant, il lui faut une trentaine de minutes pour l'exécuter. Alors il a besoin d'une compagne. Là, c'est la miséricorde qui devait vous accompagner jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Et c'est Dieu qui a assigné cela dans le délai de Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que quand vous avez évoqué ce thème qui est dans votre contexte, dans votre temps, Inch'Allah, nous allons voir avec l'expérience que nous avons traversée, parce que nous avons vécu presque le même âge que vous, Alhamdulillah. Et nous devrons vous donner les outils nécessaires pour que vous cerniez la dimension de ce thème qui est aussi complexe et d'actualité et qui malheureusement, s'il est mal compris, beaucoup rate les objectifs. Est-il possible, alors, parce que vous allez situer ce contexte dans les mu'amalat, après la aqida, ensuite la question des rites, donc le culte, l'islam parle aussi des mu'amalat. Donc ce thème s'inscrit dans les relations humaines. Après l'aqida, après le culte, là on vient dans les relations humaines. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tous et nous sommes obligés de vivre dans le même espace. Et nous devrons nous rencontrer. Et ceci devrait se faire dans un cadre contexte. Donc ce thème, nous allons voir cette question des permissibilités conditionnelles. Il y a des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala les a encadrées. Parce que nous sommes des êtres humains dotés de raison. C'est pour ça qu'il a fini toujours certains versets qui interpellent les consciences. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et vous qui êtes d'être doté de raison, vous devrez avoir le choix de la raison au-dessus du choix du cœur. Parce que vous avez des objectifs. En islam, les relations hommes-femmes avant le mariage sont strictement encadrées. Le sexe en mariage et l'intimité physique étant considérés comme des péchés majeurs. Donc ça, on est dans la question de haram. Ça, c'est strict. Du point de vue aqida, si Allah subhanahu wa ta'ala rend quelque chose haram, il devrait rester haram. Comme dans surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلِ » Ce seul verset nous justifie de long en large qui touche au vent. C'est susceptible de nous conduire à commettre l'irréparable, comme la fornication est strictement interdite. Et dans surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala continue encore à nous marteler pour nous justifier davantage que pour chaque chose dont il a interdit. Et donc il a fait encore justifier par un péché capital. Dans surat An-Nisa, verset numéro 32, chapitre 4, il nous dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, alors nous effaçons vos méfaits et nous vous ferons vivre dans des endroits aussi nobles, qui est le paradis. Si vous évitez les péchés, les grands péchés, parmi les kabaïres, et parmi les kabaïres, zina fait partie. On attaque Rabbo Zina, ne venez même pas y approcher, car il a produit des sanctions très lourdes. À votre âge, c'est le verset numéro 1 et 2 qui fait très peur, du chapitre numéro 24, surat An-Nur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala apporte cette question, il nous dit surat Anzalnaha wa faradnaha. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة في شابتر أول في ستاتيو بارتيكولي كي دي 114 شابتر سي سي سول شابتر دونك الله ا كومونسي با سو تيرم pour dire voilà un chapitre particulier سورة أنزلناها Dieu nous dit nous l'avons fait descendre وفرضناها et nous en tant que musulmans Dieu nous dit, nous vous y obligeons à accepter les principes qui y a à faire, qui sont dedans, qui ne suscitent aucune ambiguïté. Et Dieu nous dit, nous avons fait descendre dans ce chapitre ayat bayinat, des versets clairs qui ne suscitent aucune ambiguïté dans l'interprétation. Parce que quand il y a un mot de la lèvre, il y a beaucoup de capteurs. Kana karanta kaji Allah sai ka ji zuciya kana dum 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 babu ka ta komi je ka dauka branch chapitre 24 lis-le en français prends sur Google, lis ce chapitre 24 en français. Tu vas voir, tu ne suscites aucun appui pour pouvoir saisir le sens. Ayat bayinat la'allakum tadhakkarun, afin que vous réfléchissiez. Il servit pour nous dire az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jaldatin. Wa la ta'khudhukum bihima rahfatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabuhuma wa'ifatun min al-mu'minin. Ce deuxième verset nous cite maintenant les codes pénales que, après avoir interdit la sourate Isra la fornication, tout chemin susceptible d'y arriver à ça, ensuite ici il servit pour nous dire voilà le châtiment. Si vous avez un système islamique en place, et donc vous pouvez encore prier quand vous prenez deux fornicateurs, femmes et hommes qui ne se sont jamais mariés, alors faites à chacun d'eux 100 coups de fouet, sans aucune pitié. N'ayez aucune pitié dans l'exécution de l'ordre divin. Et faites en sorte que ce châtiment soit exécuté devant témoins. Pour que ça soit à titre dissuasif. En même temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, il nous purifie davantage pour concilier l'utile à l'agréable, comme je dis, c'est des interdictions temporaires, et à un cadre légal où il va libérer cela qu'on appelle le mariage. Nous allons revenir là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset numéro 3, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Il continue à nous marteler dans le même verset pour nous dire que le fornicateur, plus tard, il n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, subhanallah. Et elle, azzaniyatu la yankihuha, même si en cachette elle est une fornicatrice, elle n'aura pour époux qu'un fornicateur ou un associateur. Et de cette telle union, de toute évidence, si après investigation, vous connaissez que des candidats sont sujets à de telles pratiques, Allah les a rendus illicites. Tant que tu sais, tu t'engages dans une voie de mariage avec quelqu'un qui est un fornicateur reconnu, alors il t'est dit de te retirer. En prélude à tous ces versets, où je dis bien la permissibilité conditionnelle, vous qui êtes là à votre âge, dans votre destin ultime aujourd'hui, c'est de dire comme l'estime vous devrez avoir une sœur avec laquelle vous devrez avoir un projet de vie pour discuter, essayer de faire un effort pour sortir avec elle de temps en temps, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse ouvrir de voie. Nous allons voir qu'est-ce qui est demandé dans ça, et qu'il permet qu'il y ait un copain ou que j'ai une copine en islam, comment on peut parler de l'amitié en islam, comment évoquer la question des fiançailles, et quel est le cadre légal, les voies et moyens qui vont vous amener à vivre dans ce grand océan de l'amour qu'on peut parler dans le cadre du mariage. Donc, il y a des garde-fous. C'est ça, nous interpellons tous ensemble. Là, je vais prendre le tableau. Toutes ces références que je viens de citer du Saint-Coran, c'est pour justifier le mot haram. Car, de l'île, quand vous avancez toujours une chose, que vous dites que c'est haram, on va vous demander d'apporter des preuves. Et la sunna nous a enseigné sur le soulouk. Et nous nous maintenons sur ce même cadre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a appuyé par d'autres versets. Donc je dis bien, tout chemin susceptible de vous mener au haram, à zina, il est à prohiber. Que ce soit dans la pensée, que ce soit dans le rapprochement, jusqu'à ce que vous vous dégagez dans l'isolement. Tout chemin, voilà, t'adrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Donc ici, toute relation hors mariage, je dis bien susceptible de vous amener au haram, elle est interdite. C'est un péché grave. Les fréquentations, le tête-à-tête, khalwa, il y a l'isolement. Et les contacts physiques sont interdits. Les filtres et consorts. Nous, dans notre temps, vous allez voir ces monnaies courantes quand Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie des bienfaits, à ce qu'on se retrouve avec dans une boîte de nuit ou dans des cercles où on doit organiser des danses et consorts où le rapprochement se fait, où l'USL même s'était donné cette position. À chaque fois qu'il y a des événements, on fait sortir le brassage qu'il est là avec la promiscuité. Nous allons voir à la limite de la aqida, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Ici, tous ces contacts ils sont interdits, en valorisant des valeurs comme la chasteté. Ce terme auquel j'insiste à ce que vous les gardez. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surat An-Nur, il a demandé aux croyants de baisser leur regard et de rester chaste. Dans le verset numéro 30, chapitre 24. Nous, et le verset numéro 31 fixe les règles aussi, s'adressant à nos sœurs, de maintenir aussi le cap, de marquer une grande pudeur dans le contrôle du regard, de rester chaste et de le faire apparaître l'un à tout que ce qui apparaît, selon la aqida, sur le visage et les mains seulement qu'il faut faire apparaître. Et nous allons voir dans le cadre de l'islam, une femme qui est susceptible d'être dans la société, quelles choses elle devrait préserver pour pouvoir répondre au verset numéro 59, chapitre 33, Ahzab. Valorisant la chasteté est le deuxième terme, celui de la pudeur, al-haya. La chasteté et la pudeur. Deux termes aussi lourds dans la balance. On aurait souhaité que ces termes, je viens de dire la chasteté et la pudeur, soient des choses, des valeurs positives, innées, ancrées à chacun d'entre nous. La connaissance alors de son conjoint, de son futur partenaire, avec une intention sincère, avec des béaba, parce que quand un étudiant me dit, Oustaz, est-il permis à ce que, avant mes études, d'avoir une copine, la seule réponse que j'allais vous donner en termes d'expérience, moi, j'avais évolué dans une cantine scolaire. À l'âge de 6 ans, on m'avait sévré, on m'avait envoyé au nord d'Agadez. Alors qu'il a depuis 6, du CI jusqu'au CM2, moi, je n'ai pas fait ça devant mes parents. On nous a fait retrouver au nord d'Agadez, à presque 25 km d'Agadez, on a évolué avec les militaires. Alors, quand j'avais eu le CFPD et que j'allais entamer les études au collège, on m'avait installé encore dans un collège loin encore de mes parents. Il me souvient des lettres gravées en or. Quand mon papa, j'étais assis dans le 19 place, comme on le disait, Haïs, Yasda. J'étais en dernière place. Il était venu, il a ouvert. Donc, le pare-brise, la vitre qui est là. Et il me donne trois conseils en or que je ne peux jamais oublier. Il dit, tu quittes le foyer après avoir fait 6 ans sans devant moi. Il dit, maintenant tu vas affronter la vie pour aller faire le collège ailleurs et le lycée. Et peut-être, tu ne reviendras plus à la maison. Mais je te donne trois conseils. Le premier conseil, il me dit, tout ce que tu vas faire, fais-le uniquement pour Dieu, pour la face de Dieu, à l'ikhlas. Deuxième conseil, il me dit de craindre la femme. J'étais en classe de 6e. Il dit de tout faire de craindre la femme. Non seulement il me dit de la craindre, et il me dit de me mettre à son service au besoin, car elle est vulnérable. Et troisième chose, il me dit, ne demande jamais à quelqu'un quelque chose dont tu peux t'en procurer. Si tu en manques, travaille pour en chercher. Ne demande jamais, ne tend jamais la main à qui que ce soit. Alors, quand il est revenu pour me dire de craindre la femme et de me mettre à son service au besoin si elle est en danger, Une médecine, travail, étudie et un diplôme. Et cherche du boulot, travaille d'abord. Assois un système et un foyer. Cherche un moyen de déplacement. Et ensuite, cherche une compagne. D'ici, tu déstabilises le chemin que je viens de te donner. Tu risques de vivre l'ignominie. Et l'ignominie, c'est la honte. Étudier d'abord, chercher du travail, régénérer de l'économie fixe, installez-vous dans un foyer, prouvez que vous pouvez, ayez un mois de déplacement et la campagne va venir. Comme quoi, le chemin est très simple. C'est pour dire qu'à votre âge, ce sujet ne devrait pas être d'actualité. Celui qui sait que jusque-là, il dépend de la bourse, et quand ça ne va pas, il fait appel à papa et maman de ne même pas s'engager derrière. C'est celui qui est sans engagement. On n'a pas un couvreur, mais il y a un look. Laissez vos grands frères qui sont déjà sur le terrain pour les aider au moins à finaliser leur diplôme. Car selon le génisme, on aurait souhaité entre hommes et femmes qu'il y ait un écart d'âge. Cet écart d'âge est aussi sensible. On aurait souhaité qu'une jeune fille de 17 ans avec un jeune homme de 23 ans. Sensiblement 6 ans à 7 ans. C'est ce qui est recommandé. Que votre premier enfant, si vous arrivez à l'avoir à 23 ans, alhamdoulilah, c'est le premier investissement. Cette incitation au mariage, vous devrez être productif pour vous marier. Parce que le chemin est très simple. Tout ce qui va compromettre vos études, qui va vous compromettre d'avoir un CV clean et avoir la possibilité d'avoir une position de stage ou un boulot, un CDI rapidement pour générer du profit, parce que le mariage exige un certain nombre de responsabilités et c'est une amana. Et dans cette amana, j'allais vous dire très rapidement, sur les 10 droits que votre future épouse a sur vous, 8 engagent des dépenses directes. 8 engagent des dépenses. C'est pour ça la Aqida actuellement, la Hizba de Cheikh Amin Daoura au Nigeria, nous a recommandé pour chaque candidat au mariage qu'il répond au moins à 5 critères. Premier critère, c'est celui de l'islamité, qu'il soit un musulman. Deuxième critère, qu'il ait un métier licite qui doit lui régénérer du profit. Troisième critère, qu'il ait un husnul khuluq, qu'il ait des bons comportements. Même s'il a fait l'université de Médine, s'il est violent envers la femme, le prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas dominer la femme. Donc à l'islam, on ne frappe pas la femme, on n'est pas grossier envers elle. Quelqu'un qui a un bon comportement, c'est à celui-là qu'on devrait lui donner une bonne épouse. Quatrième principe, qu'il soit sain d'esprit et sain du corps, après avoir établi un certificat médical. Il faut qu'il soit sain d'esprit et sain du corps. Et le cinquième principe, le mariage se fait avec toujours la connaissance de la famille. Si vous remplissez ces 5 critères, alors on peut vous donner une femme. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, concernant la femme, il dit, je vous recommande une seule, avec des dates, celle qui a la religion. Vous avez 5 conditions à remplir, elles ont une seule condition à remplir. Celle qui a la religion, c'est celle que vous devrez préserver la chasteté. Actuellement, ceux qui sont dans la salle ici, chacun d'entre nous doit être un ambassadeur. Parce que je parle de la sixième. Chaque homme qui se présente dans cette salle, il y a 5 femmes qui sont autour de lui, qu'il veut préserver impérativement, auxquelles il ne devrait pas. Hier, on a célébré la journée du 13 mai, la journée de la femme nigérienne. Mais chaque homme en islam, en termes de responsabilité, il doit protéger l'honneur et la dignité de sa propre mère. Il a grandi, il a évolué sous les jougs d'une grande sœur, qui devrait jouer plus tard le rôle de la mère. Il devrait asseoir un système pour préserver l'honneur et la dignité de sa petite sœur. Il devrait être en contact plus tard avec son propre épouse, à laquelle il ne veut même pas une bouche la toucher. Et plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver par une fille. Comme pour nous dire, ces deux nous nous sommes comportés aujourd'hui avec celles-là, qui sont très loin de leur papa, de leur grand frère, de leur petit frère, de leur futur mari et de leur futur fils, qui allait leur préserver au même titre tout ce dont vous avez fait en cachette. Il faut aller marcher, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Nitoudar. Ce dont vous avez fait, c'est comme ça qu'on va faire plus tard à vous. Et Dieu va vous éprouver. Nous sommes tous en épreuve. Et cette épreuve sentimentale, tu vas avoir de l'affection. Mais les limites sont là. Quand tu les franchis, l'épreuve, parce que je dis bien et je le répète, le seul péché sur lequel tu dois rendre ça sur terre, c'est celui de la fornication. Ça ne pardonne pas. Zina, non. Tu fais, on va rendre. Alors si tu préserves ces cinq, notre seul problème aujourd'hui c'est avec la sixième. Celle-là avec qui je peux établir un contact, avec laquelle l'USN a favorisé des choses. L'école était là. Quelqu'un d'autre, si ce n'est pas à l'école, est-ce qu'il peut même avoir le courage d'aborder une fille? Est-ce qu'il pourra? Nous, à notre temps, je me souviens, on avait un camarade qui avait peur de la femme. Depuis le collège, on a fait le lycée. Quand on appelle une fille, il court. Et je vous assure, il a étudié la médecine. Il a fallu finir gynécologue pour avoir une femme. Il a fait un bac plus 13. Absolument, il est gynécologue. Mais il a honte de la femme. Depuis le collège, il ne peut pas rester devant une fille. Je dis que c'est possible. On va le voir, Inch'Allah. Donc, le point clé, la connaissance du conjoint, de ton futur conjoint, est permis dans un cadre respectueux, souvent en présence d'un maharam, accompagnement légal. J'allais vous dire quelques conseils issus de notre cadre, car notre grande association s'est limitée, l'AEML. Nous qui avons vécu le temps de l'Aïmoun, qui avait connu un essor depuis 1988, avec la première mosquée qui était construite en 1996, qui est face à Glimet, le premier siège. Nous disons, le contexte dans lequel nous avons vécu, il n'était vraiment pas favorable à l'islam. C'était difficile. Je me souviens, ma première nuit au bâtiment E, UN3, ce qui m'avait marqué le plus, c'est que ma première nuit, je sortais pour aller aux toilettes, j'ai surpris deux camarades en train de se laver. Un camarade et une fille. Deux étudiants de sexe opposé. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'étais surpris. Mon cœur battait tac, tac, tac. Je suis venu, j'ai parlé à mon voisin, j'ai dit, tu as vu ce que j'ai remarqué? Et vers 1h du matin, nous nous sommes réveillés avec un cri. Qu'est-ce qui se passe? On dit c'est la place Abid. On est parti, on avait trouvé ce catch des femmes que les étudiants regardaient. Des femmes qui étaient presque nues, qui faisaient catch. Et c'est des étudiants qui regardaient, qui délectaient le canal. Le foyer d'Okanoma était là. Le vendredi soir, c'est la boîte de nuit. Tout, tout, tout. L'alcool était là, à profusion. Presque toutes les conditions étaient réunies pour la dépravation de mœurs. Que quand tu appelles à la prière, c'est des étudiants du bâtiment F qui regardent et disent, hey, étudiants de la salle là. Chacun a honte. C'est les gardiens et les personnels éducatifs et techniques seulement qui priaient en ce moment. Les étudiants priaient, non. Le hijab, on n'en parlait même pas. Je me souviens, en faculté des sciences de la santé en médecine, notre première réunion, c'était une requête, car presque on avait presque 1100 étudiants en première, deuxième année, mais 98% des sœurs qui viennent prendre cours l'après-midi n'ont aucun hijab. Il y avait juste deux hijabs accrochés à la salle prière femme. Et elles se relayaient pour prier. La seule demande qu'ils nous ont fait, c'est que si on pourrait cotiser pour leur augmenter les hijabs. J'avais communiqué avec une de nos sœurs avec laquelle on avait évolué, Fatima Abdelmoumouni, qui faisait des interventions sur Canal 3. Je l'ai invité à faire cette conférence parce que j'ai dit, nos petits frères et sœurs qui sont à l'IMIC, ils ont besoin de l'histoire, comment nous avons vécu. Elle dit, Inch'Allah, elle sera prête pour venir accompagner nos sœurs. J'ai dit, elles ont besoin de cette expérience. Comment nous avons vécu? Parce que c'est important. Il faut que vous compreniez le contexte. Que ce dont on vous dit maintenant de ne pas faire maintenant, c'est pour votre bien. J'ai dit une anecdote. Un jour, j'étais à la cité universitaire, on était au bâtiment. Des responsables, à Kazo, et les responsables des syndicats, ils sont partis amener une fille de joie. Monnayant nos propres cotisations au bâtiment D pour coucher avec elle, faire la fornication. Et à 2h du matin, elle ne pouvait plus, cette pauvre. Elle était sortie nue. Parce qu'au départ, le contrat, c'était deux. Et il s'est avéré que tous, ils ont pris de l'alcool et ils ont dit qu'ils vont abuser d'elle. Ils dépassaient une dizaine. Elle était sortie nue. Mon voisin, il dit, Oustaz, regarde, il faut qu'on sauve cette soeur. C'est une vie humaine, sinon ils vont la tuer. Ils sont tous dans l'état d'ivresse. Nous sommes descendus, nous nous sommes interposés entre nous et elle, nous l'avons amenée au bâtiment F, c'est pour ça qu'il faut évoluer toujours dans un cadre organisationnel. Nous étions au bâtiment F, chercher la chambre de l'amiral principal. En ce moment, c'était une soeur qui faisait sur troisième année. Nous l'avons frappé à sa porte, pour dire de nous donner un pagne et un hijab pour donner à cette, pour habiller cette fille qui ne peut même pas retourner dans la chambre chercher ses habits. Pour venir maintenant l'accompagner, faire le pont et prendre 1000 francs à la caisse pour lui donner de quoi aller à Talagi, après l'avoir amené à El Nasser. Et quand nous sommes revenus, nous les avons trouvés dans un état de débriété. Les mêmes cadres en train de dire que nous nous sommes interposés. Et à la mosquée, après la prière de Fajr, nous avons rappelé ces pratiques qui ne sont pas bonnes, qui ternissent nos images. Et je vous assure, 16 ans plus tard, dans un établissement de la place à Niamey, entre les mêmes étudiants, les mêmes élèves, dans un complexe scolaire de l'État, on avait enregistré 6 grossesses indésirées entre les élèves. Alors, l'administration a organisé une grande conférence. Et ils ont demandé de faire venir un psychologue et des gens qui vont venir, on m'a choisi, pour venir faire cette conférence sur la dépravation de mœurs. Et quand je suis venu, tout le corps enseignant était là. J'ai fait la conférence pour interpeller ces pratiques qui sont ignobles au nom de l'islam. Et ce qui m'a surpris, quand le proviseur était venu placer le mot, il faisait partie de ce même cadre auquel nous avons arraché cette fille 16 ans avant. Et il me dit, oui, Oustaz, c'est un compagnon de grande date. Nous nous sommes connus depuis l'université. Ils nous ont rappelé les versets du Coran. Après, je lui ai dit, monsieur le professeur, vous êtes marié? Il dit, oui, vous avez des enfants. Il dit, oui, maintenant la vie, alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est pour vous dire que tout ce que vous semez, vous allez les récolter. Maintenez
même si c'est dans les sens péjoratifs, on vous dit, cher frère, vous allez, vous êtes obsolète, cultivez l'excellence. Fattakullaha wa yu'allimukum. Craignez Dieu, il va vous donner la science. Soyez majeur de vos promotions. Cultivez l'excellence. Et les péchés sont les choses les plus promoteurs qui peuvent inhiber la connaissance. Nous, dans notre temps, il n'y avait pas l'alcool, la cigarette, non. L'adultère, la fornication, non. La drogue, non. On ne touchait pas. C'est pour ça que le Coran et la science suivaient ensemble. On te fait un cours, la mémoire est fraîche. Sur le terrain des PS, du sport, karaté, taekwondo, tu es toujours là, vivace. Parce que vous ne touchez pas à ça. Si vous croyez en Allah, il va vous donner la connaissance. Alors, si vous dites cette question de copain-copain, nous allons voir si les conditions sont favorables. Comment vous pouvez arriver à asseoir un système qui va vous permettre d'asseoir ce système. Je dis bien en grand temps, nous avons une interdiction de l'intimité qui est haram. Et tous nous sommes d'accord, unanimement d'accord, que les relations sexuelles, l'intimité physique et le fait de se retrouver seul, khalwa, avec une personne du sexe opposé, sans un mahram, sont interdits. C'est pour ça que nous nous recommandons de préserver l'intimité de nos sœurs, de nos camarades, qui après ma grippe de grâce, cessez de faire des va-et-vient dans leur bâtiment. De grâce. Faites un effort pour que le cadre convivial qui leur ait été offert soit juste une continuité de leurs chambres respectives, de leurs parents. Ces dons, elles ne pourraient jamais faire devant leurs parents. Ne leur offrez pas cette occasion de faire devant vous. Car même si leurs parents ne le voient pas, le grand chapitre de l'Aqida al-Muraqaba nous enseigne cette proximité divine de ne pas commettre le péché. Car si c'est parce que les parents ne sont pas là, ne voient pas, nos grands frères ne voient pas, l'administration ne voit pas que je peux commettre un péché, alors tu ne connais pas ce qui est Allah. Alam ya'alam anna Allah ya'alamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Verset numéro 7, chapitre 58, Mujadala. Ne savez-vous pas que Dieu connaît parfaitement tout ce qui est dans les cieux sur la terre? Vous ne pouvez pas être en tête à tête dans une réunion à 300 qui ne soit le quatrième, ni 500 qui ne soit le sixième, ni en deçà de ce nombre, ni au-dessus, sans qu'il ne soit avec vous où que vous soyez. Et le jugement dernier, il sera le grand témoin à vous informer de ce que vous êtes en train de faire. Que si vous supposez vous dégager aux yeux de tout le monde pour chercher à atteindre l'intimité d'une camarade, parce que personne ne vous voit, et vous êtes enclin à commettre le péché, pensez en ce moment solennel que Dieu est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire interne. Et tellement qu'il vous observe en même temps qu'il a mis deux nobles scribes, deux anges, qui ramènent quatre lignes, ya'alamuna ma tafa'alun, qui savent parfaitement tout ce que vous faites. Et tout est consigné, enregistré, et au grand jour, ça sera au grand écran, Yom Tovul Asraï, le jour où Allah va divulguer les grands secrets. Yom Tazabou, le jour de la grande perte. Yom Al-Qiyama, le jour de la grande station. Où tout ce dont tu cachais faire, Allah SWT va dévoiler ça. Et pour qu'il te fasse une équité absolue. Il était là, témoin. Les anges étaient là témoins. Le partenaire peut témoigner. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qui est plus témoin que toi, contre toi, que toi? Al-yom nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala va fermer la bouche pour permettre à ta main qui a touché à l'interdit de dire oui tel ou tel jour j'ai touché tel et tel. Telle partie du corps va dire tout ce dont tu as fait. Et les pieds avec qui tu t'es retrouvé vont témoigner. Toi, dans ma carrière, j'ai quelqu'un de quelqu'un de caïs. La sourate Yassin, Allah soit nous a dit cela. Qu'il va sceller la bouche pour permettre au corps, à ton propre corps, de justifier tous les péchés que tu as fait. C'est le jour de la grande honte, l'ignominie. Donc, ce premier niveau, toute relation, tout chemin susceptible de prohiber, de vous amener à cela, il faut l'interdire. L'intimité physique, le fait de se retrouver seul, étant strictement interdit. Et s'il y a possibilité de le faire, mieux vaut protéger vos projets les plus ultimes. En tant qu'éducateur, on aurait souhaité que vous ne vous y adonniez pas à cette telle pratique, parce que vous avez en face de vous des gens qui peuvent interpréter mal. Si aujourd'hui l'imam va y voir en quoi tu es sur le bâtiment, tu as des cracks, allez, l'imam. Tout de suite. Nous, dans notre temps, il n'y a que nous, là, si on va aller diriger la prière, je vous assure, comme on peut faire jusqu'à 5-10 sessions à la mosquée Sitemer. Quand la deuxième session, l'imam central a fini la prière et qu'on y entre. Si on sait que tu donnes la main au fils de cache de la tu es ton fils. Systématiquement, tu exclues. Dans quelqu'un a choqué, quand il y a un bâtiment AF, c'est fini. Tu es exclu. Qu'est-ce que tu as dans la voie? C'est une moralité douteuse. C'est pour ça que nous nous exhortons, même s'il y a des projets qui mûrit, qui peut avoir entre un étudiant en master en fin de cycle, qui peut accompagner une sœur d'Ayat, qui peuvent concrétiser ce dessin ultime, que ce projet se fasse en toute discrétion dans le secret absolu et que les rencontres se font dans les foyers, dans les maisons, surtout devant leurs parents. Si je veux vous donner un grand conseil, nous, on a fait des fiançailles saines, mais ce dont nous nous sommes exclus, quand j'étais à Zaria, chez Albani, je lui ai demandé conseil en tant qu'étudiant en médecine, de nous donner des conseils, comment nous devrons vivre avec nos soeurs avec qui on étudiait la médecine et on était au-delà de tous les tabous. Car on étudiait les organes génitaux directement en face, direct, et nous sommes sur le terrain. À la maternité, partout où nous maintenant, l'objet d'étude, c'est l'être humain. Il nous a dit, si vous allez vous marier, évitez les falafes à Ourat. Comme le verset 58, chapitre 24, l'avait évoqué dans le surat l'eau. Quand il s'adresse à la Oumma islamique, Allah SWT a dit aux croyants, de dire aux esclaves ou domestiques qui sont sous votre possession ainsi que vos enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté de demander permission avant d'avoir accès à leurs parents à trois moments solennels. À midi, quand vous allez vos effets de midi jusqu'à Asr, après la prière du chat et avant la prière de l'aube, il me dit, respecte ces moments solennels, des moments en toute intimité avec toute camarade. Alors, toute sagesse, j'ai compris, il est extrêmement interdit, moi je me suis interdit. Et je conseille à tous mes frères de ne pas aller créer des conditions d'intimité avec une jeune fille après Isha. Évitez. Il faut éviter. Avant l'aube, déjà jusqu'à avant l'aube, éviter. De midi à 16h, éviter. Même si vous êtes des candidats au mariage, acceptez de venir après Asr, avant Maghrib. Et un week-end de 9h avant 11h. Parce que la chose la plus abominable qu'un candidat musulman pourrait commettre dans le mariage, c'est trois choses. Le mensonge. Le musulman ne ment jamais sur sa situation. Deux, l'hypocrisie. Vouloir apparaître sur ce dont tu n'es pas. Ne mentez jamais à vos futurs candidats du mariage. Soyez timide, ne parlez pas trop, car ça va vous rattraper plus tard. Quand vous parlez trop, vous allez beaucoup mentir. Et ne prenez jamais, ne faites jamais de promesses à une fille, jamais. Il faut la surprendre plus tard que tu es un homme digne de confiance. Si tu peux lui construire une maison avant le mariage qui est sa dot, falilah alhamd. Mais tu es en train de choisir la mère de tes futurs enfants. Et quand tu rates le choix, tu tombes dans le grand péché. C'est pour ça que je vous conseille ces pratiques. Parce que vous êtes détaillés. Atamuruna nasa bil birr. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون allez-vous enseigner la bonté aux gens, la bonne foi, la aqida, la foi, et vous oubliez أفلا تعقلون, vous ne réfléchissez pas. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أو فكانوا pourquoi vous dites ce que vous ne le pouvez pas en application. Quelle abomination vous avez d'Allah que de dire des paroles des vertus dont vous-même vous ne mettez pas en application. Alors cachez vos projets de fiançailles car le terrain est aussi très glissant. On veut seulement à ce que Satan vous pousse à commettre l'irréparable. Car malgré cet idéal que nous cherchons, nous restons des êtres humains passibles de commettre l'erreur. Et nous avons un ennemi redoutable qui est Satan, qui est en train de vouloir nous mener à notre perte. C'est pour ça que l'esprit d'équipe est important. Nous avons installé une CASO, un comité de veille à notre temps, avec nos aînés, nos grandes sœurs, j'étais en première année de médecine, mais nous avons travaillé avec l'actuelle femme de chaque bonhomme dans la elle était en quatrième année de genou. On a fait en sorte qu'on a répertorié à la cité universitaire toutes les chambres de nos sœurs. Toutes sœurs qui portent une jambe, on la connaît. À notre temps. Parce que, et on a fait en sorte qu'après Isha, moi et l'imam actuel de la mosquée CH, l'imam Hassan Omar, on fait le tour de toutes les chambres où nous trouvons des camarades pour les faire descendre, pour ne pas déranger nos camarades. Nos sœurs, dans leur intimité, ont dit camarades, descendez. Vous n'avez pas le droit de les déranger. Parce qu'elles sont là pour étudier. Elles ont des objectifs à atteindre. Et la CASO, ça lui faisait très mal. Mais commission ordre, nous sommes encore inscrits là-bas. Commission sépare, nous sommes dans la bibliothèque. Commission ordre, nous sommes encore dedans. En ce moment, je dirais, l'USN, même le matériel de solidarisation, il faut qu'on finisse l'appel à la prière Isha à la grande mosquée, face à Grimet, pour venir amener le micro pour faire une AG, l'Assemblée Générale. C'est nous qui prêtons les matériels. Lui, nous n'avons pas de matériel de solidarisation. C'est la grande mosquée. Et on fait tout pour que, avant la preuve de facture, le premier appel, on ramène le matériel là-bas. Et nous aussi, si nous avons besoin de la place, nous faisons une demande. Je me souviens quand M. Michael Zodi était sur le terrain, comment il nous a rendu la vie. Aujourd'hui, sur les acteurs de la société civile, mais comment on a eu une dysphorie entre nous quand nous allons demander la place AB qui est marxiste-léniniste, et que quand nous la demandons pour faire nos activités, ils nous demandent de faire la minute de silence, on dit non, nos martyrs ont besoin de droits, des invocations. Et la CASO dit tout le monde est maintenant, nous avons ce qu'il y a, nous avons pourtant, pourquoi nous avons ils disent que la promiscuité, il faut que les soeurs s'immixent avec la place, et la place AB et les marxistes, on dit quand nous vous la donnez, elle doit rester mohammedienne. Et nous nous sommes imposés. Donc nous ne pouvons pas incarner les valeurs de la morale, ensuite venir faire en bassesse ce que nous les interdisons dans les mosquées. C'est pour ça que je vous recommande solennellement d'éviter, dès que la nuit tombe, qu'on vous retrouve dans les locaux des sœurs. Évitez. Évitez. Faites en sorte que le cadre de concertation, de la même façon dont vous vous retrouvez dans votre cadre convivial d'études, que le salle respectueux d'études où vous vous retrouvez ensemble, mais considérez leur chambre comme le prolongement de leurs parents. Partout où leurs parents sont, ils ont leurs soucis. Ils ne veulent pas à ce qu'une seule mouche les atteigne. Voilà. Donc, le schéma est très simple. Je dis toujours, nous allons commencer par la camaraderie. Au nom de l'USN, nous sommes tous des camarades. Et c'est pour ça que nous nous donnons cette opportunité d'approcher une camarade ou une chercheur pour pouvoir vouloir créer cette relation. En psychologie, la relation humaine, c'est parce que nous sommes tous des membres de l'USN. Donc c'est le plus bas niveau. À cause du MAC, j'ai quitté Zadet, je peux me retrouver avec une sœur de Terra. À l'université, je me suis inscrit, les conditions à la fac, ou au restaurant, ou dans le bus, je peux me retrouver. Ici, vous êtes dans un cadre convivial où l'enseignement est encore, la sélection est encore là. C'est pour ça que vous allez vous retrouver dans le deuxième terme de la sympathie. Vous vous sympathisez parce que vous vous retrouvez en termes d'affinité. Vous avez des ambitions dans le même objectif. Vous vous êtes inscrit, vous avez le bac qui vous permet d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Maintenant, vous êtes des camarades, vous êtes du lycée. Tous les, ceux qui ont le bac A, le bac D, le bac C, le bac scientifique, tout cadre confondu, nous sommes des camarades. Mais maintenant, en termes d'affinité, des études, on se retrouve dans chaque amphithéâtre en première année. Je veux faire la médecine. C'est normal que je me retrouve tout le temps avec une soeur même gabonaise. De Cameroun, nous avons, ma voisine était camerounaise. Le premier cours que j'avais pris en médecine avec le docteur Gatti, il y avait une Camerounaise qui m'a dit, après 30 minutes de cours, et ils ont fait jusqu'à 4 ans. Et elle me dit, c'est le cours comme ça, mais qui est c'est le cours magistral. Moi, je ne savais pas. C'est le cours comme ça, elle a dit, j'ai fait 3 ans. Il dit, comment ça a écrit? Et c'est elle-même qui fait sortir, qu'est-ce de qu'elle me donne, je n'ai rien amené. C'est mon premier cours. C'est normal, parce que là, vous avez les mêmes objectifs. Et j'étais obligé, maintenant, de demander, après le cours, au nom de cette sympathie, de cette affinité, des gens qui vont me donner pour faire la mise à jour. Et c'est pour ça que vous allez voir, on va passer de la sympathie à l'amitié. Alors, de quel droit tu peux te retrouver avec une amie? Toi, tu as chômé un coup de tous les camarades dans son client, tu ne peux aller chercher à faire la mise à jour qu'avec une camarade. Est-il possible qu'il y ait l'amitié entre un camarade. Et une camarade, ça n'existe pas en termes de psychologie. Vous allez voir, il est extrêmement interdit d'avoir une amie du sexe opposé tant que vous n'avez pas de projet de mariage ensemble. L'amitié entre deux êtres de sexe opposé n'existe pas. C'est une forme d'amour déguisé. Un cache déjà, il a pris déjà une fixation. Même si c'est une camarade, même si c'est une chère soeur, elle va venir, elle va voir, machallah, oui, tu sais, rapide, elle peut vous faire la ménage. Oh, il faut éviter. Il faut la réorienter vers le comité des sœurs. C'est un grand soeur. Oh, oui, il y a telle soeur qui est dans la même section. Moi d'ailleurs, je n'écris même pas très bien. Avoir une excuse valable. On n'est pas la frustrée parce qu'elle a déjà fait une fixation sur toi. Donc, vous ne créez pas les conditions. Une amitié, c'est entre homme-homme, femme-femme. Quatrième niveau, c'est celui de l'amour. Et l'amour, ça devrait avoir la bonté et la miséricorde. Et non pas cet instinct vivace qui vit en nous, qui va nous amener au péché. Vous savez, quand on dit en termes de physique, le prophète Yusuf alayhi salam est le plus beau de toute l'humanité. Mais en matière de caractère moral, le plus beau de toute l'humanité, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yusuf alayhi salam, il était beau, mais sa beauté n'a pas empêché de l'envier au péché. Mais lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne peux pas imaginer ça, je crois que c'est ça. Et le cinéma qui est Hawaï, Katanani, Kamata, jamais. Jamais. Parce que lui, il a incarné la miséricorde. C'est pour ça qu'on aurait souhaité cultiver ce type d'amour qui est là avec bonté, sans pour autant aller salir l'autre, pour se mettre au service de ton prochain. Et c'est le message solennel que nous avons de la Aqida, le dominateur commun de tous les prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que cette l'humanité, elle a un créateur. Et on ne nous a pas demandé d'aimer Dieu parce que vous ne le voyez pas. Mais c'est de cultiver l'amour de ton prochain. Toute catégorie doit comprendre. Le musulman doit considérer son prochain comme un être digne de foi, sans jamais porter atteinte à son honneur ni à sa dignité. Quand tu as cette grandeur d'esprit en toi, comment tu peux oser salir jusqu'à penser une pensée négative, aller à commettre l'irréparable? Tu aspires de la même façon dont on t'a interdit cela. Tu vois avec une sœur que tu aimes, que tu penses elle peut être la mère de tes enfants. Alors, en aucune façon, tu ne peux lui souhaiter ce mal. De manière naturelle, même si vous vous rencontrez, c'est à une hirée. Vous voyez comment les... Il y a rien à dire ce qui est hirée. Si le père se rencontre une femme ou un homme, lui d'ailleurs, on regarde, l'autre regarde l'ouest, l'autre regarde l'est. Si le sardin, c'est un hack. C'est qu'elle est une femme. Et elle, avec pudeur, elle regarde l'ouest. Et cette soupe est quand même. Jamais elle ne le regarde. Mon agagna. Parce que la langue doit élever la voix pour assurer sa supremacie, qu'il est prêt à la sécuriser, la sécuriser. Et je me souviens en 2016, on était parti dans un village pour faire la promotion. le funéraire vous a envoyé avec la ressource. Le funéraire qui est une femme de 52 ans pour faire la promotion ou pour ouvrir une maternité et installer le contraceptif. Le village ne voulait pas. La station était là, il y avait des difficultés. Mais eux, ils avaient un programme de ralentir notre démographie. On était parti avec l'armée, tout. Le village, tout le village était sorti. L'imam est là, Négari était là, tout le monde était sorti. C'est le village produit. Quand on était descendu, maintenant elle, comme elle était blanche, elle était juste en demandeur, c'est important, non? Dès qu'elle est descendue, Négari était là à côté, elle lui a tendu la main. Négari n'a qu'à faire aussi, va t'en. Il y en a pas là, nous. Tout le village a dit, mais c'est là. Tout le village a dit, soit. Mais il y a des ah! Je me suis rapproché de l'imam. La société de ne pas s'occuper d'animal. Vous, quand on va parler aujourd'hui des règlements intérieurs, est-ce que ces des pratiques sont louables à ce qu'il y ait l'émergence aujourd'hui de l'intellect, où vous êtes en train dans un contexte de cultiver l'excellence? C'est possible à ce que vous atteignez des objectifs avec les maigres ressources que vous avez dans ce contexte où nous avons de la refondation de nous y amener à ces pratiques jusqu'à compromettre. Compromettre, je dis bien, parce que quand Satan rentre en jeu et que Dieu décide de vous y trouver, Wallahi, vous serez compromis. J'allais vous dire une femme qui jusque-là, aujourd'hui, elle a 66 ans. Actuellement, dans notre cabinet, on est en train de la prendre en charge psychologiquement. Parce qu'elle était rentrée dans un système d'androgynie où elle détestait les hommes toute sa vie. Toute sa vie, elle s'était refusée de se marier à cause de quelque chose qui lui est arrivé. Elle avait fait son brevet. Juste après son brevet, son meilleur copain avec qui elle était, lui, il avait fait le bac. Et toutes les familles se connaissaient. On les envoyait ensemble, ils sortaient avec elle pour aller. Et c'est des grandes familles ici au Niger qui se reconnaissent. Maintenant, lui, juste après le bac, il a fait le concours de sous-officier pour rentrer dans l'armée. Maintenant, le jour où on a proclamé les résultats du bac, elle était déjà admise. Alors, pour fêter ça, ils se sont rencontrés. Et pour la première fois, ils ont commis l'irréparable. Elle a perdu sa virginité à l'insu de ses parents, pour fêter cet événement que Dieu les a gratifiés. Lui, il a eu le bac, elle a eu le brevet. Ils ont commis l'irréparable. Et malheureusement, lorsque l'acte sexuel qui a fait perdre sa virginité, sa dignité, une grossesse et une reproductive se fait escalader. Quand elle a fait le retard, elle l'avait ambisé en premier. Qu'elle n'a pas vu ses règles et elle était malheureuse. Que voilà pour la première fois. Et voilà les conséquences. Car chaque mois, la femme éprouve ses besoins 48 heures où il ne faut pas l'approcher. Satan peut commettre l'irréparable. Elle peut tomber enceinte. Mais l'homme peut s'exciter toutes les 90 minutes. L'homme peut avoir besoin d'une femme chaque 1h30 minutes. Mais elle, son cycle menstruel, elle ne peut tomber en ce qui est 48 heures. C'est pour ça qu'elles sont plus patientes, résilientes. C'est pour ça qu'il ne faut pas créer les conditions, toi, d'aller vers elle. parce que tu t'excites très rapidement. Et la testostérone qui est là en toi, cette hormone de virilité, qui est sécrétée toutes les 90 minutes en toi, c'est celle qui fait la virilité, la voix rauque, la pilosité, la barbe, les muscles et consorts. Cette vivacité que tu es homme, c'est cette hormone. Mais elle, comme c'est elle qui reçoit. Alors, cette jeune fille qui est là en face de son avenir, elle avait pris la décision, et quand elle l'avait informé, aussitôt, le test de l'armée était sorti. Alors, comme ça va compromettre ses études, il a nié la grossesse. Je peux vous dire que vous pouvez compromettre pour 5 minutes, compromettre toute une vie. C'est pour ça que partout où il y a zina, il y a le consentement de la fille. Et il y a un homme irresponsable. On dit Tiamana. Il n'est pas digne de confiance. Cet homme, pour ne pas salir sa carrière militaire, a désavoué cette jeune fille pour la laisser l'abandonner à son sort. Et quand il a fait cela, elle avait pris la vraie décision de garder sa grossesse contre tout ce qui va se passer. Et elle a dit, à partir d'aujourd'hui, elle et l'homme, c'est terminé. Difficilement, elle fut rejetée par tout le monde. Mais elle s'est résolue, sous conseil du membre de sa famille, que comme elle a perdu sa dignité, son honneur, et elle a fait venir une grossesse, la seule ennemie qu'on voit pour se racheter, c'est de tuer. Alors, elle s'est résolue à faire le lycée pour aller étudier le droit. Le droit qu'elle a étudié, c'est pour défendre le droit et les intérêts de la femme. Et je vous assure, elle était jusqu'à changer de religion pour appeler ce compétitif. Elle a vécu 500 ans de christianisme. Et quand elle a compris qu'au Vatican, la femme n'a pas de place, elle a changé de cap. Et elle a dressé sa propre fille contre les hommes. C'est le jour où j'ai détecté que sa propre fille, elle avait un plan pour se marier avec une femme et aller vivre en Europe. Et j'ai cherché à rencontrer la mère pour dire que sa fille est lesbienne. Alors que c'est elle-même qui l'a formée ainsi. Et elle a compris à partir de cet instant qu'elle a échoué toute sa vie. Et elle me dit, alors, si ma fille a besoin d'une prise en charge idoine pour réactiver sa féminité, moi-même j'ai besoin de cette prise en charge psychologique. Voilà comment j'ai su l'histoire de cette noble femme qui aujourd'hui elle a 66 ans. Elle est née en 1960. Voilà son histoire. Elle n'a jamais voulu se marier durant toute sa carrière de magistrat. Parce qu'un homme lui avait sapé sa dignité et son honneur en toute innocence pour penser remercier Dieu de cette énigme. Elle a accepté. Et voilà comment elle a vécu tout sa vie. C'est pour vous dire, mais lui, il a fait sa carrière jusqu'à être un ingénieur. Aujourd'hui, il est décidé. Mais il a dit deux femmes. C'est pour vous dire que vous avez toutes les possibilités de faire ce que vous voulez. Mais soyez responsables. De grâce, choisissez des camarades, des amis, garçons entre vous, qui puissent vous défendre valablement, que vous pouvez être digne de confiance pour les envoyer partout. Moi, j'étais un cadre de l'Amoun. En tant que SCAS, j'ai dirigé le SCAS de 2001 jusqu'en 2008. J'ai dirigé 77 mariages dans les 8 régions du pays du Niger, de mes propres camarades, de mes propres frères et soeurs, à l'université Abdoumoune Dinamé. Et tous ces couples aujourd'hui sont stables. Au point où on a arrêté dans cette année même, 3 ou 5 couples que j'ai dirigé leur mariage qui vont aller à la mettre ensemble. qui sont des professeurs et docteurs en mathématiques dans les universités à l'intérieur du pays. C'est pour vous dire que quand vous créez cette condition d'être digne de confiance, que vous pouvez aller demander la main pour justifier l'honnêteté et la dignité de vos camarades, car on va vous poser cette question solennelle. Quand vous allez vous marier, qui était un tel? On ne va pas te demander toi directement. On va demander avec qui tu as réfugié. Et l'islam recommande d'extrapoler au-delà. Le verset numéro 12, chapitre 49, nous dit « Ya iwadadine amoni wabukamikum, ishtani wukafira minafwani, évitez tout de conjoncturer sur votre vie. » Il n'est pas à dans le risque. Une partie de ces conjonctures est péché. Voilà des questions. Ne vous espionnez point. Voilà, yakta ba'adukum ba'ada. Et ne vous médisez pas les uns des autres. Ayuhibu ahadukum an yakula laha ma akhi mayta. Même vous pourrez témoigner la chair de son frère mort. Fakarif tomu. Vous en voulez la repugnance. Wa taqullaha inna allaha tawwabur rahim. Craignez votre Seigneur car il est accueillant au reparti. Ce verset a fixé des normes. Mais concernant le mariage, il nous a été demandé de faire le spionnage pour chercher à qui nous devrons donner digne de confiance. C'est pour ça, ici, représentez-vous valablement. Ayez des amis sincères à qui vous allez faire chemin ensemble. En 2010-2011, quand Mohamed Issou était venu au bâtiment C03, il était rentré dans sa chambre et s'est assis. Et il s'est rappelé son camarade de chambre avec qui ils ont fait 4 ans. Et il dit, ils sont jusque-là ensemble. Seulement 4. Ils ont fait la même chambre pendant 4 ans. C'est pour ça que je dis, bien, si vous voulez cultiver une amitié sincère, alors c'est le moment de la faire entre vous ici. Et entraidez-vous. Wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal. Alors, quand une sœur a des difficultés, accompagnez-vous toujours pour aller l'assister. Soyez entre vous ensemble. Et je vous dis, ce hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit, entraînez-vous, aidez-vous les frères justes et injustes. Les compagnons ont dit à Rasulullah, nous pouvons aider nos frères justes, mais comment aider nos frères injustes? C'est-à-dire en les empêchant de commettre l'injustice. Quand nous avons connu ça, quand nous étions à l'université du Mondiamé, nous avons des camarades qui invitaient des sœurs pour venir nous voir à Tellag et ils avaient leurs copines. Mais, quand ils vont venir, ils regardent la première personne qui les dérange, d'abord c'est ma propre bibliothèque, mes Corans. Ils commencent à dire, Stas, oui, Coran, mais nous voyons un peu ici. Ils disent, ah! Après, c'est là, quoi On refusait de laisser Khalwa une seule coïn Moubaka en danger. Jamais. Entraînez-vous. Ayez des amis capables, ou un ami qui puisse t'empêcher de commettre une erreur. C'est là le meilleur ami. Et entre soeurs aussi, ayez ça. Ayez des aînés qui sont capables de vous interdire quand tu traduis mal, de dire non. Ma soeur, évite cela. Donc, ici, vous allez voir ce pourvenir à ce grand terme que le Coran nous a accepté, c'est la fraternité. En termes de relations humaines, le meilleur mot dont le Coran nous a évoqué, il n'aime pas les mots, les croyants
sont des frères et sœurs. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. Soyez bienveillants envers cette fraternité.
وَاتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Dieu.
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Afin que la miséricorde de Dieu soit sauve. Le verset numéro 71, surat 9, Tawba. Nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils se recommandent le bien. Ils s'interdisent le blabab, ça qui de la salade, font le monde à eux. Allah dit, c'est à eux là que ma miséricorde s'en sur eux. Il faut que nous nous entendions dans cette fraternité. Car ce terme utilisé par le Coran, c'est la plus forte relation qui puisse unir deux êtres qui peuvent vivre, que même si il y a au-delà de la camaraderie, au-delà de cette sympathie qui est temporaire, au-delà de cette amitié qui peut venir nous casser, au-delà de cet amour qui peut être soldé par une maladie, quand deux êtres s'aiment et que l'électroporeuse de protéines montre la dépendance de l'un, il faut sur soi. Malgré l'amour, vous pouvez vous aimer 10 ans, 20 ans, le divorce peut intervenir. On vous dit de rester frères et sœurs. Car vous venez tous du même matrice, de Adam et Ève. Et je t'aime. Il n'est pas dans un sens péjoratif quand on vous dit mon frère ou ma sœur. C'est Dieu qui t'a appelé ici. Si un camarade de l'ISM nous dit camarade, il dit oui, mon frère, ça va? Et au-delà de ça, moi j'ai ce titre là qui nous dit. Et c'est le maire. Il ne le prenez pas dans le sens péjoratif. C'est le meilleur mot dont Dieu vous a réuni en tête. Vous êtes frères et sœurs. Au nom de l'humanité, au nom de la foi, au nom de cette religion, au nom de la famille, et au nom de ce cadre dans lequel vous vous évoluez, unis par la foi ensemble pour le bien, le cadre de l'humanité. Il n'y a pas un cadre plus pour faire asseoir les bases dans cette université qui est gréco-païenne, dont les instructions ne sont pas en apparence avec l'islam, car il n'y a aucun amphithéâtre, on enseigne la Aqida, ou la Sira, ou l'Arabe, ou bien. Nous n'avons pas il a dit non. Nous sommes en train de chercher un institut de la langue arabe et de la culture islamique depuis 1974. Ils ont refusé. L'université Abdoumoune Dynamique est gérée par la CFD. La coopération française de développement. Comme celui qui vient sur le programme et celui qui reclasse tous les étudiants, tous les anciens chercheurs, donc ils refusent qu'il y ait l'islam dans leur programme. Même le programme financé par l'UNESCO, l'école normale supérieure, qui est l'Arabie Saoudite, a financé. Car malgré la présence d'une université islamique au Niger, ils ont limité leur cadre qui sort avec leur diplôme uniquement à l'enseignement de l'école primaire. Pour leur permettre d'accéder à l'enseignement du collège général, de l'enseignement général. Sinon, vous allez voir un gouffre qu'il y a. Pourquoi il n'y avait pas l'arabe? On rencontre l'arabe dans le système traditionnel uniquement au lycée. Alors, et cet arabe au lycée permet juste d'avoir le temps en superficiellement comme l'anglais. On n'a pas fait en sorte qu'on va faire 7 ans d'anglais, mais j'avais atterri à l'Éthiopie, je n'ai pas pu demander qu'on me sert à manger dans un restaurant en anglais. J'ai fait 8 ans jusqu'à 2 ans en faculté de médecine en anglais, mais je n'ai pas pu communiquer en anglais. Il dit, un chuché, parce qu'on ne m'a pas enseigné le vrai anglais. Si en 6 mois, d'autres partent faire le bel médecine pour commencer à prendre des cours magistrales dans une université, ce que moi, on a fait, on a créé un système sciemment pour que je n'ai pas accès à la langue de la science. 4 ans au collège, 3 ans au lycée, 2 ans, mais je vais atterrir en quittant pour aller en Arabie Saoudite. J'étais arrivé à Addis Abeba dans un restaurant en anglais, je n'ai pas pu me débrouiller, j'ai pu me débrouiller, mais j'ai réussi. Pour vous dire, ils ont fait le même système avec notre langue de la spiritualité, la langue du Coran, l'arabe. L'Arabie Saoudite alors a financé la construction de l'établissement ENS, l'école normale supérieure, pour permettre à tous leurs cadres qui enseignaient à l'école primaire de faire le test de revenir. Sinon, vous regardez, vous regardez le tableau à l'entrée de l'ENS, il y a le drapeau de l'Arabie Saoudite avec la calme de la. Pourquoi? parce que la religion était à financer ce programme de l'école normale supérieure. Mais quand ils ont envoyé l'argent, c'était 10 fois plus que le budget de l'enseignement supérieur. Alors, ils ont réorienté le fonds là pour envoyer des gens en France, à Bordeaux, pour Paris, pour faire je ne sais quoi, et venir avec un plan de carrière jusqu'à être le docteur. Mais dans le plan de carrière, il n'y avait pas de baccalauréat. Parce qu'ils n'ont fait qu'une brevet plus deux. Et comme normal, un étudiant, on leur donne la possibilité de venir pour s'inscrire ici. Et la France a voulu les envoyer pour faire une licence, un doctorat juste là-bas, en France, parce que l'argent était beaucoup. Et les ont réorientés de leur objectif. Et c'est un des trois. Vous allez voir beaucoup de cadres qui sont sortis, ils sont des docteurs, mais dans leur palmarès, ils ne pourront pas défendre leur diplôme. Parce qu'ils s'expriment très mal. Ils n'allaient pas dans l'enseignement général. Parce qu'ils n'ont pas fait le bac. Et ils sont là-bas. Ils se cachent. Vous allez voir, ils ne peuvent jamais faire le grade du professorat. Parce qu'ils sont, ils vont rester toujours docteurs. Qu'Allah soit nous en prison. C'est pour vous dire que ce terme fraternité, c'est le meilleur. Alors, pour parler de monsieur, le risque qu'il y a, comme le Coran nous dit dans le verset numéro 4, chapitre 24, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شُهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ceux qui lancent des accusations contre les jeunes sœurs, des femmes chastes, qui se protègent en toute dignité, qui n'ont jamais connu la fornication et l'adultère, même dans le rêve, et qui tentent de les rabaisser par cet arbre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites à chacun, ceux qui lancent des accusations, faites à chacun 80 coups de fouet. Et c'est pour ça, parmi les 7 péchés capitaux, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité le fait d'accuser des femmes chastes de cette ignominie. C'est strictement interdit. Et ces hommes qui lancent des accusations contre ces femmes chastes, ils ne sont plus dignes de témoignage. Et enfin, Allah dit, ils sont même des pervers. إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Alors, en prélude à ce verset, je m'adresse à mes sœurs, que le verset du hijab, le verset de la pudeur, le Coran parle de la femme pieuse, pudique et vertueuse. L'approche du Coran, cette femme modèle, qui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Ad-dunya mata, ce monde-là, il est éphémère. » Mais la plus grande réjouissance qu'un homme peut avoir sur cette terre, c'est d'avoir « al-mura'at salih », une bonne épouse, digne de confiance, à laquelle on peut avoir une zouliette toyiba, qui n'a jamais connu l'homme. Adultère, communication, zéro, qui s'est préservée en tout honneur, en toute dignité, jusqu'au mariage. À cette sœur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne épouse, une maison avec une vaste cour, un moyen de déplacement qui ne te produit pas de problème, et un voisin affable, il t'a donné le bon monde. Cette femme-là, c'est celle-là qui devrait travailler avec le verset 59, chapitre 33. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait honneur aux épouses du prophète du sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô toi prophète, dis à tes épouses, à tes propres filles et à l'ensemble des femmes des croyants de rabattre leur grand voile si elles sont dans un milieu où elles peuvent être vues par d'autres hommes. Elle dit, elles seront plus vite reconnues en tant que femmes musulmanes et vous éviterez d'être offensées. On avait un camarade, un cher frère, qui dans notre temps qui nous dépassait, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que lui, son modèle, c'est Obama. Il s'habillait, il fait chocol, mais à chaque fois qu'on vient à la fac, alors les Togolais, les Camerounais, les Singaliens, ils nous donnent la main. Mais nous, notre premier système de défense, c'est Mounoumoué Hulam Tchaka.
mun bar gemi da jalabiya tun zo ma kalle ki wani ko kin ba mu hannu zuwa assalamu alaikum banna duyi ni boza da ke sai mai furkuwa duyi ake bata ne ce ba ka da gemi ba ka da kullah ba ka da jalabiya to ya kike so ba su kasu ba et elle-même, si elle avait le hijab, elle ne peut pas être offensive. C'est pour ça que quand vous préservez la Ummah, vous devrez suivre cette consigne. Que toute jeune fille qui évite cela, alors elle préserve la Ummah, ne met pas son prédat le péché. Et elle ne peut lui faire la bonne annonce qu'elle est une bonne épouse plus tard. Première chose, l'exhibitionnisme. La femme musulmane ne s'exhibe pas. Elle n'utilise pas son corps pour attirer l'attention d'un homme. Ce jour, sa poitrine et son derrière doivent être exclusivement fermés. Seul son mari peut avoir accès à ses trois zones et rosaires. Seul son mari, étant pubère, même son propre papa n'a pas accès à ça. Elle doit hermétiquement fermer cela. Et le hijab lui a été imposé trois moments. La seule et unique tenue valable, tenue pour prier devant Dieu, c'est le port du hijab. Où tu dois tout hermétiquement fermer. Dans un hijab qui n'est ni ample, qui est très ample, ni volant, ni transparent. Et tu ne dois pas comporter un habit de prestige. Et Dieu t'a demandé de prier dans ça. Deux, quand tu es dans un milieu public, comme ce genre de milieu. Trois, quand tu es à l'intérieur de chez toi et qu'un homme qui peut te prendre en mariage, tu es le salaf du Saint-Denis. Alors tu te retires dans ta chambre, ou si tu dois rester déshabillé dans la cour ou dans le salon, tu dois mettre le hijab. Le hijab est obligatoire sur trois aspects. Donc, l'exhibitionnisme, toute tendance, toute théorie, et je dis, mes camarades sont agressés sexuellement. Vous savez depuis quand? Depuis l'école primaire. Imaginez la promiscuité intellectuelle. Nous devons avoir un espace féminin et un espace masculin. Si une même fratrie, même père, même mère, à partir de 7 ans, on devrait les séparer de couches. Les garçons doivent vivre dans la dépendance. Et les jeunes filles protégées à l'intérieur. Ou bien, quand vous partez aujourd'hui chez ces filles-là, dans leur propre foyer sorti, wallahi, leur chambre, vous n'avez pas accès à la chambre. Ou bien, donc, alors, préservez leur honneur et leur dignité, même ici. Ne les laissez pas s'exhiber. L'exhibitionnisme est interdit en islam. C'est comme enlever à la tortue sa carapace. Deux, le maquillage à outrance. Pour qui la femme doit se maquiller? Exclusivement à son mari. C'est tout. Donc, son futur mari n'a pas le droit de voir son maquillage. Ni agresser sexuellement un camarade. Vous allez voir à partir de la 6e jusqu'à terminale, nous avons été agressés sexuellement par ces jeunes filles qui étaient avec nous, avec qui on faisait un PS. Où nous avons accès à leur atout dans toutes les dimensions. Ou bien, jusqu'à ce qu'il y ait eu des attachements. Et a eu beaucoup de rêves. Vous savez, la définition des rêves selon Freud, c'est quoi? La définition des rêves, c'est quoi le rêve, par définition? C'est la satisfaction hallucinatoire des désirs refoulés à l'état d'éveil. Tu as fait une fixation sur le camarade. Ah! Heureusement que Dieu intervient, Daniel. Que c'est un phénomène biologique. Sans ça, tu peux être un vrai, tu peux aller jusqu'au viol. Et c'est dangereux. Dans les sociétés où les femmes excitent beaucoup d'hommes, vous allez voir des gens jusqu'à aller coucher avec des cadavres. Des gens qui peuvent aller détruire ou étrangler une fille, la violer et la laisser vivante là-bas, vite. Parce que l'homme, quand son éveil, son instinct sexuel se déclenche, ça inhibe sa raison. Il devient un élément. C'est pour ça, éviter de l'exciter. Donc,
le mariage à outrance est interdit à l'islam. Trois, la complaisance dans le propos. On demande à nos soeurs de parler avec un ton franc, sans complaisance. C'est pour ça que la fille, la femme à l'islam ne devrait pas chanter. Elle ne devrait pas psalmodier le Coran non plus. Parce que l'ordre fut donné aux femmes du prophète de parler avec un ton franc, de peur de ne pas éveiller le désir. Elle était des mères croyantes. Qu'en est-il de nous autres? Quatre, il est strictement interdit en milieu public à la femme de mettre le parfum dont les hommes peuvent sentir sa bonne odeur jusqu'à l'envie. Car le parfum excite l'homme. Et vous vous dites, vous avez besoin de votre bien-être. Évitez cela. Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait renvoyé une femme qui était venue prier Fajr parce qu'elle avait du muscle sur son corps. Elle a senti l'odeur. Et dit, retourne faire goûter le janaba. Et dit, elle n'avait pas de janaba. Et dit, le parfum dont je viens de sentir l'odeur, fait de toi une femme qui a commis la terre. Fais goûter le janaba. C'est un hadith sahih. Et dit, le parfum. Cinq. Évitez la promiscuité qui va vous amener à donner la main à un homme. Pensez à alléger votre accoutrement. Au point où ils pensent que vous êtes émancipé, que vous pouvez donner la main. C'est interdit à l'islam. Six, cette promiscuité, mixité interdite, qui va faire après, par exemple, au restaurant, dans le bus, à la place AB, dans toutes les relations, vous allez vous retrouver par concours de hasard avec une soeur à côté de toi qui, quand il y a un danger, tout de suite, elle peut être sur toi. Il faut éviter. Il y a des attouchements et ça peut plus éviter. Dans le bus, il y a beaucoup d'attouchements sexuels, c'est des agressions. Il faut éviter. Il y a beaucoup de choses qui nous parviennent. Il faut éviter ces genres de contexte. Et le septième, c'est la khalwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout homme saint d'esprit qui est bien portant, qui s'isole avec une femme dont le mariage est autorisé entre eux, le troisième est Satan. Même si c'est le meilleur médecin du monde. Je le trouve en consultation avec une femme, le prophète a dit, le troisième c'est Satan. Alors il doit chercher une assistante ou consulter cette bonne dame avec un membre de sa famille. Ou est-ce pourquoi c'est interdit? Le musulman doit faire vivre sa foi. ومكان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في درس 36 شابتر 33 نودي إن لي أبتنير أ أن كرويان أو أن كرويان إن فوا كي ديو سو ميساجي أون ديسيدي داز أون أفير دافوار أنكور دو شوا دان لا فاصون ماجي Et tout celui qui en étant en connaissance de ce qu'a voulu dire Dieu et son messager ayant suivi délibérément sa passion et s'est égaré vers l'égarement évident. C'est sept conseils que je vous donne, avec preuve à l'appui, qui vont vous mener inévitablement au péché. Il faut vous les interdire. Évite, ma sœur, de t'exiler. N'utilise pas ton corps pour attirer l'attention de ses camarades. Plus tard, tu seras la femme d'un seul homme et préserve l'honneur et la dignité de tes enfants. Deux, ne fais pas de maquillage en outrance. Enlève ton maquillage, tu es dans un cas de nécessité. Derrière. Trois, évite la complaisance dans tes propos. Même si tu as la meilleure voix, ne l'utilise pas pour attiser l'attention des intérêts mesquins de certains camarades. Fais un effort, car ceux qui ont la foi ne peuvent te donner que des bons conseils. Quatre, évite au maximum. Au maximum, tu dis bien, le parfum. Le parfum de la femme a une couleur, mais pas d'odeur. Le parfum de l'homme, il est fort, mais il n'a pas de couleur. Donc, évite le parfum. Ton bien-être, fais un effort pour ne pas être une fornicatrice dès ici. Et Allah SWT fait ôter sa miséricorde sur toi. Cinq, évite la mixité interdite.
la promiscuité qui peut t'amener à te humilier au point où tu te sens à l'aise de parler avec n'importe quel homme. Non. Et ça, même sur les réseaux sociaux ou dans les groupes WhatsApp, je dis bien, il faut les éviter. Avec ce premier groupe, plus tard, vous allez voir, on dit c'est la même promotion, la même promotion. Il faut être. Comment tu peux être avec la femme de prix dans un même groupe WhatsApp? Ça n'a même pas de sens. Il faut éviter. Il faut éviter. 6. C'est strictement interdit de donner la main au garçon. Il faut éviter, ma soeur. Quand il te donne la main, dites assalamu alaikum wa rahmatullah. Et 7. Évite de te mettre dans une situation indélicate de khalwa, qui même s'il n'y a rien, d'autres peuvent en douter. Et Satan est très fort en ce moment. Il peut t'amener à commettre l'irréparable. Donc, pour finir rapidement, les fiançailles et les rencontres. Je dis bien ça, c'est une permissibilité conditionnelle. Il est permis de faire connaissance avec une personne en vue du mariage. Mais je dis, dans votre contexte, je vous conseille de cacher au maximum ce genre de projet jusqu'à ce que ça se concrétise. Car le terrain de faire cela, le musulman ne vit l'amour que dans le cadre du mariage. C'est après le mariage. Il doit vivre l'amour. Avant le mariage, il faut que tu sois digne de confiance pour prouver qu'on peut te donner la amana. Avant, vous en avez dit matin. Jamais. Mais je dis avant. Dans quoi? Sois digne de confiance. Présente l'autorité, le bon honneur. Maintenant, l'amour, tu vas le vivre dans le mariage. C'est pour ça que tu vas voir, c'est dans le mariage où tout est autorisé. Wallah, ceux qui ne vivent pas le vrai amour, on ne peut pas se retirer. Parce que l'islam t'a tout recommandé. Le seul unique endroit qui t'est autorisé de te laver avec ta propre femme, c'est dans le cadre du mariage en islam. Manger ensemble. La seule occasion où 1 plus 1 va donner 1, quand votre premier enfant va arriver, mais c'est formidable. Vous allez faire la fierté au l'honneur des 4 grandes familles. Si ton papa et ta maman de ce côté, sa maman et son papa de ce côté-là, toute la famille, vous êtes 6, vous allez faire venir un septième qui est là. Et c'est formidable. Faites-les en toute honneur et en toute dignité. L'amour se vit dans le mariage. C'est pour ça que je vous recommande d'éviter le mensonge, l'hypocrisie. Et ne faites aucune promesse à aucune femme avant le mariage. Parce que les musulmans ne mangent jamais. Une vélo grecque, un vélo grecque. Quelqu'un a un mot dans la boîte. Un cahier, on passe à ton bourreau, mais à ton bourreau, que tu as caché ta gamine. Mais il n'est pas tes parents pour mentir à une femme. Non. On ne mange jamais. Les musulmans ne mangent jamais. 2. Ne sois pas hypocrite. Parce que c'est la chose la plus abominable. Tout de suite, même pas une semaine, elle va découvrir ça après le mariage. Quelque chose que tu as gardé secret pendant des années où personne ne sait. Comment moi, quand tu sais pas? Ma taque, tu sais, ça, c'est ça. Ça, tu es ailleurs. Elle va tout connaître ce jour. Donc, s'il y a une chose à éviter au maximum, c'est d'éviter de trop parler à elle. Laisse, quand vous vous mariez, de vous découvrir chaque jour. Et il faut la surprendre avec des surprises dans l'amour. On s'était retrouvé à la Mecque, avec, quand on était arrivé à Mina, un couple de Turcs, la femme était descendue du bus,
sur les trois escaliers. Elle a fait trois pas, maintenant lui le turc. Il dit à sa femme, viens, hop, il l'a pris comme ça, hop, il l'a déposé. Maintenant, il y a un couple de Nigériens en Algérie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous souriez. C'est un peu comme ça, je vais vous dire. Parce que vous ne pouvez pas. Il faut éviter. Aujourd'hui, les feuilletons, les films, au consort, la dépravation de l'os avait atteint ce niveau où on a tout exhibé. En pensant alors que la pudeur, là, il n'y a pas quelque chose de plus sacré chez la femme que la pudeur. Car elle est la moitié de la foi. Chez la femme, elle est capitale. Et à l'homme, on te dit d'être un responsable. Derrière chaque homme responsable, on devrait avoir une femme obéissante. Et si tu ne remplis pas ces critères dès maintenant, pour être un leader, un futur, vous allez voir, quand on fait un sondage aux femmes, qu'est-ce que les femmes veulent le plus? Vous serez surpris. Vous serez découragé. Ce que les femmes veulent le plus, c'est cette liberté d'aller et revenir pour qu'elle soit contemplée elle-même. Et deuxième chose, ne jamais tarir de l'argent. Elle a toujours besoin de dépenser, même si elle n'en a pas besoin. La femme a besoin de cette sécurité pour sortir sans joug, qu'elle n'ait aucune contrainte pour aller faire ce qu'elle veut. Quand elle veut, comme elle le veut, donc elle est émotionnelle. Mais vous, vous êtes logique. C'est pour ça qu'elle oublie très vite ce qui s'est passé. Et elle n'a aucun programme pour l'avenir. C'est qu'il est à l'instant, parce qu'elle vit à l'instant. Donc, tu vas voir, quand tu sors avec elle, la même nuit, elle peut prendre la bourse de 6 mois. Tu vas aller, tu vas aller au grand marché avec elle. Ta bourse de 6 mois, elle va tout rappeler. Tu vas appeler ton papa pour t'envoyer au shop. Même si elle va venir rassembler tout dans ta chambre, où il n'y a même pas de place. Parce qu'elle, elle cherche la contemplation. Elle cherche de l'admiration. Elle cherche toujours à être admirée, appréciée. Et ça, jusqu'à la fin de sa vie. Vous voulez compenser ce gouffre? Vous ne pouvez pas. Donc, pour pouvoir être à la hauteur, travaillez, épargnez, soyez des responsables qui peuvent assurer la sécurité. Et soyez forts. Soyez forts, car elles ont besoin des hommes forts, capables de les protéger, de leur assurer la sécurité émotionnelle, la sécurité physique, la sécurité financière. Et pour cela, il faut protéger vos projets. Car aujourd'hui, nous sommes enclins à l'envie, passage à la starec. C'est elle qui nous détruit le plus. Car nous exposons tous nos projets. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ouvertement, il faut éviter. Faites beaucoup de prières. Faites la prière de consultation. Je veux venir dans les fiançailles et consorts. Pour que Allah soit à la main la barakat dans ça, je vous conseille la prière de consultation. Il faut que chacun d'entre nous la prenne. Car le Rissa de la Parisienne nous a dit selon Jadi, il a donné le droit au Bisharab, comment il a donné le surat de l'Oran. Et il faut faire ça pour que Allah vous oriente vers le lieu. Car je dis bien, la fin du chapitre de l'Oran, c'est numéro chapitre 31, verset numéro 33, nous a évoqué 5 choses dont personne n'a connaissance. La connaissance de l'heure, seul Allah connaît dans le Qiyamah. Seul Allah connaît le devenir de chaque matrice. Personne ne sait, nous serons des ingénieurs, nous serons des ministres. Notre avenir, personne n'a accès. Nos parents nous ont mis au monde, mais 25 ans en arrière, ils ne savent pas qui nous serons. Aujourd'hui, à l'instant, seul Dieu connaît notre devenir. Personne ne sait. Personne ne sait quand le ciel se prépare. s'il y aura une pluie ou bien il y aura du vent. Personne ne sait ce qu'il va acquérir demain en matière de substance. Personne. Et personne ne sait dans quelle terre, où et quand il mourra. Personne ne sait. Par rapport à ces constantes, il nous a été interdit de consulter tous les devins et charlatans qui vont vous dire, ils vont vous faire des sakara. C'est faux. Qu'il y a-t-il ? Je dis que nous avons dit Allah est là. Si c'est ça, je vous conseille Jésus le Moussou, le chapitre numéro 26. Apprenez de Aouli Sakhar. Et dès que vous avez un projet, quelle que soit sa nature, faites deux prières, faites prière de consultation et essayez d'en parler aux sages qui sont avec vous. Si c'est possible, vous aurez cette possibilité à aller de l'avant pour que Allah concrétise. Et s'il y a un mal en cela, Allah subhanahu wa ta'ala va vous changer avec un lendemain meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Les sentiments, c'est normal de ressentir de l'amour avant le mariage, c'est naturel. Mais le Coran demande de ne pas prendre d'engagement secret et de rester convenable. Le contrat de mariage étant la seule voie pour officialiser la relation. Donc, même si tu as annulé la dot de grâce, baraha ay adwa, ataru ay shida. Yana arka ganaka da moto kana kai ka gina onkel kin ka kana yau da a ta shiga taxi ka hawo motar ka ifo di vidi sura car le seul cadre dans le cadre où vous allez voir quatre choses un objectif très noble seul dans le mariage vous pouvez le dire la perpétuité de l'espèce humaine aujourd'hui la plus grande abomination qui puisse arriver à un musulman qui n'est pas marié c'est d'enceinte une fille et qu'elle, elle compromet son avenir quand elle prend une grossesse non désirée, pas dans le mariage. Alors il dit cela. Zulet Otoiba et cet enfant-là, il appartient uniquement à sa mère. Il ne peut pas porter ton nom. L'islam refuse cela catégoriquement. Et il ne peut pas hériter que de sa mère. Tu ne peux le considérer que comme un orphelin pour pouvoir aider cette sœur qui a donné confiance en toi. Et imaginez, ça sera de l'amertume dans sa famille, jusqu'à la fin de votre vie. Et si vous prenez la malchance de faire le mal dans le mal, de dissimuler cette grossesse pour faire un avortement, ça encore c'est pire. On ne corrige pas une erreur en commettant une erreur à l'islam. Une vie humaine, on ne la tue pas. On s'assure en toute responsabilité. Donc, le seul et unique cadre pour faire venir une soulette au Païba, au nom de la perpétuité de l'espace humain, c'est dans le mariage. Deux, l'assouvissement de l'aspect charnel. Une permissibilité conditionnelle, la fornication interdite, l'adultère, un marié ou une veuve ou marié divorcé qui commet l'adultère, c'est la peine de mort. On dit de l'enterrer jusqu'au cou, on le flagelle jusqu'à la mort. Si lui, le célibataire, on lui dit de lui faire 100 coups de fouet, lui le marié, on lui dit de lui faire, de le tuer. Alors, de grâce, mes soeurs, si les mariés étaient plus courtisés, évitez de monter dans leur véhicule. Et évitez à ce que vous les offrez des cadres jusqu'à déshonorer, parce que vous les mettez en danger. Ayez des fiançailles saines, même si vous serez deuxième ou troisième fois. Évitez de compromettre votre avenir. Le principe étant acquis, faites un effort au maximum pour préserver cet acquis. L'islam vous rappelle cela. Trois, l'objectif du mariage, c'est qu'ensemble on doit éduquer les enfants. Vous allez voir qu'on a le complexe de l'île. Les enfants, les garçons vont aller un passant vers le maternel et les filles vont avoir un passant vers leur papa. Et ça, vous allez aller jusqu'à la puberté. Mais dès qu'il y a un parent, un foyer monoparental, avec le divorce, les enfants sont déstabilisés psychiquement. Le seul et unique cadre dans lequel on peut éduquer sainement les enfants, c'est dans le cadre du mariage. Donc le concours de nos parents pour éduquer et élever les enfants jusqu'à leur maturité. Et le quatrième axe, c'est que chaque conjoint doit offrir à son conjoint une atmosphère de bonne entente avec de l'amour et de l'estime qui devait perdurer jusqu'à la fin de la vie. Si les objectifs du mariage sont ainsi et un seul objectif pour l'au-delà, إن أصحاب الجنة اليوم في شغل هم وأزواجهم أتفك الدنيا كيلو بلدي الدين هم وأزواجهم أزواج الله ديبوزي 60 هوري à chaque homme candidat qui s'est préservé en toute chasteté ici, sur terre, même s'il décède sans aucune femme, s'il accède au paradis, Dieu lui va lui donner 70 houris. Et s'il part avec une candidate qui a adoré Dieu, elle sera la reine et la princesse de notre côté. Alors acceptez-les maintenant la polygamie, mes soeurs, parce que c'est le chapitre le plus étonné que plus tard vous serez contraints à accepter. Qu'Allah soit là, nous en préserve. L'islam est venu réglementer. L'islam n'a pas apporté la polygamie, mais elle a réglementé. Donc, faites un effort au maximum pour que ceux que Allah nous a fait choisir, celui est l'unique, le prophète a fait, le Coran a ordonné de le faire, la'alla nos papas ont fait, nos négris ont fait, nos imams ont fait, nous aussi, ouvrez cette porte à vos futurs maris. Au moins c'est dans un cadre légal pour ne pas avoir des amendes et des rapports extra-conjugales. Dans un cadre légal, offrez à toute dignité cette possibilité à ce que l'homme ait à soi des familles. C'est important. Donc ne vous partez pas dans ce principe ou dire que vous, on ne peut pas vous faire une co-épouse. Non, non. Ne fermez pas cette porte. Seul Allah est unique. Et quand vous affrontez son unicité, il va vous épouser. Qu'Allah soit Allah nous en préserve. Je pense continuer, Inch'Allah, dans les questions pour pouvoir donner un liste d'expérience ce qu'il y a dans les bienfaits du mariage et le danger et ce qu'il y a dans cette question de copain-copine dont vous n'avez vraiment pas besoin dans votre contexte actuel. Qu'Allah soit Allah nous en préserve. Qu'Allah soit Allah fasse, monsieur, de nous des gens capables de préserver l'honneur et la dignité et qui nous suivent pas y va avec la science voir sa structure. Nous en avons besoin de beaucoup de Abdul Moumin et de Al-Barait. Quand je viens dans ce genre de contexte, je dis bien pourquoi jusque-là nous sommes en arrière. Je vous assure, j'ai pleuré quand j'ai vu le recul des terminales C ici à Niamey. À l'intérieur du pays, on n'en parle même pas. C'est une catastrophe. J'étais allé à Mac, j'ai demandé quelle est notre partition pour nous. Il n'y en a pas. C'est vous qui avez la science. N'ouvrez pas la porte au péché pour que Dieu fasse sortir entre les fleurs la science. Apprenez la science et fermez les péchés. Et parmi les choses les plus illimes, c'est Zina. Illimine les Zina, pas sa loi. Arbitre les Zina, jamais. Évitez de vous détruire très tôt. Soyez de bons poussins qui peuvent clore. Très beau, joli. Mais si vous vous détruisez dans l'œuf, c'est pouf, c'est waï. C'est malheureux. La schizophrénie est là. Qu'Allah soit Allah nous en préserve. أقول هذا ما تسمعنا صفر الله لي ولك صلى كل ذنب إنه هو التواب الرحيم. بسم الله.
Vous nous avez permis de mieux comprendre la distinction entre ce qui relève des coutumes et ce qui relève de la législation. Si nous devions retenir l'essentiel de ce qui a été dit aujourd'hui par notre malheur, c'est que l'islam ne dit pas les liens sociaux, mais